carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nous nous trouvons ici à la Galerie Sélème, dans le 6e arrondissement de Paris, pour cette exposition de l'ensemble des peintres de l'Académie des Beaux-Arts. À mes côtés, Jean Cortot, peintre et membre de l'Académie des Beaux-Arts, Lydia Rambourg, historienne de l'art et critique d'art, correspondant de l'Institut et plus précisément de l'Académie des Beaux-Arts. Jean Cortot, vous vous trouvez ici au milieu de vos confrères. Je crois que c'est la première fois que vous exposez tous ensemble. Comment est-ce que du coup vous voyez vos œuvres parmi celles de vos confrères? Comment est-ce qu'elles dialoguent? Est-ce qu'elles dialoguent de façon inattendue?
Dialogue, j'espère que c'est un... Enfin, il y a évidemment des différences, mais c'est la même chose. Cette question peut être posée à tout le monde, sur tous les plans. Mais il est toujours enrichissant d'être avec d'autres, parce que nous ne sommes pas des animaux solitaires. La diversité est obligatoire. C'est le jeu de toute exposition collective, des salons...
On goûte à cette occasion votre diversité et vos personnalités différentes.
Oui, mais ça, c'est ceux qui regardent qui peuvent dire ça. Mais moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt. Je regarde avec beaucoup d'intérêt la peinture de mes confrères. Vous savez, une des qualités de la peinture, c'est qu'elle peut des autres, c'est qu'elle peut vous donner envie de peindre. Voilà. C'est ça, les échanges, c'est ça. Parce que finalement, tout ça est un besoin personnel que tous les êtres ont, d'avoir le goût de trouver une énergie quelque part qui donne envie de faire quelque chose à son tour. Voilà. Je pense que c'est une explication qui est peut-être un petit peu trop... rapide, mais à mon sentiment, c'est ça qui est tout de même important, c'est de trouver de l'énergie. Et les aventures collectives sont souvent, très souvent énergétiques. C'est vrai, je me souviens de tous les salons, enfin le salon de mai, par exemple, le salon des réalités nouvelles, pendant des années et des décennies que j'ai fréquenté, c'était toujours quelque chose qui était, enfin, qui donnait envie d'aller. Voilà. Voilà. Et vous savez, le message, je crois que je ne sais plus à qui je l'ai dit, de mon cher et grand Valéry, il dit l'homme de génie est celui qui m'en donne. Voilà. On a toujours besoin du génie des autres.
Je vais vous proposer un exercice, Monsieur Cortot. Je vais demander à Lydia Rambourg de bien vouloir présenter votre œuvre, si elle l'accepte. Et je vous demanderai ensuite de commenter ce qu'a dit Lydia Rambourg. Est-ce que cet exercice vous plaît? Je vous prends de court.
C'est un exercice de haute voltige, hein, parce que l'élocution et l'écriture, c'est vrai que ce sont deux temps différents. Et alors, chez Jean, il y a deux temps aussi, il y a le temps de la peinture et le temps de la poésie, le temps du regard et le temps de l'écrit. Alors voilà, j'ai déjà jeté des idées.
Alors précisons, Lydia Rambourg, que vous avez écrit les textes du catalogue qui accompagne cette exposition à la Galerie Sélème. Et donc, effectivement, vous passez constamment du regard à l'écrit. Et cette fois-ci, je vous propose de passer de l'écrit au dialogue. On va voir comment ça se passe.
Alors, c'est vrai que Jean Cortot, depuis quelques années, a établi un compagnonnage avec les poètes, les écrivains, Il y a une proximité poétique, je pense, qui s'est assez rapidement dévoilée dans sa peinture. Et alors, justement, c'est là où peut-être Jean va intervenir aussitôt, c'est qu'il y a eu ce besoin de l'écriture qui n'est pas toujours au départ, je crois, il y a des périodes. Alors, il y a eu des séries de tableaux où les textes n'étaient pas toujours lisibles, c'est-à-dire que c'était un prétexte à une rythmique, à quelque chose une graphie, vraiment, qui venait et qui circulait, qui rentrait dans l'espace de la toile. Et puis, alors, après, les textes sont vraiment lisibles. Mais non pas que Jean Cortot se mette en arrière, en amont ou en deçà de cette écriture, qu'il fait sienne, parce qu'en fait, il lui donne là aussi un style qui est le sien, c'est-à-dire qu'il y a le sens, et puis il y a aussi la visibilité, je dirais, de l'écriture. Donc, il y a des inflexions, il y a une flexibilité des lettres, et tout ça cohabite. Alors, ça devient des sortes de palimpsestes dans lesquels on circule, et c'est à la fois la peinture qui dialogue. Enfin, il y a un beau dialogue qui s'établit, je trouve. Le sens et le regard, encore une fois, l'esprit et le côté plus sensuel, toute cette gymnastique lyrique qui nous ramène aussi toujours sur les pas de la poésie. Alors, il y a effectivement de très nombreux poètes qui ont accompagné et qui continuent d'accompagner Jean Cortot, parce que c'est très ouvert, mais il y a Queneau, il y a Butor, il y a Sandrard, Arabal, Saint John Perse, Reverdy, Montaigne, Baudelaire. C'est vrai qu'il y a Paul Valéry qui est très proche et très cher à Jean Cortot. Il y a Pessoa, Apollinaire. Et alors, il y a ces textes qui viennent d'une façon tout à fait... comment dirais-je, il y a beaucoup d'inventivité, parce que c'est sous forme de registres. Ces registres sont inégaux, c'est parallèle, donc ce sont des bandes qui sont superposées. Et alors, il y a là aussi, au milieu de cette circulation, on invente nous-mêmes notre propre lecture. Et c'est ça aussi que je trouve de passionnant, c'est que Jean Cortot nous apprend à relire peut-être et à rentrer davantage peut-être dans ses poèmes de grands poètes, mais il y a aussi ce qu'il nous apporte lui en tant que peintre, en tant que créateur, parce qu'il intervient dans cette façon de faire circuler les phrases qui sont entrecoupées de tâches, de motifs qui sont les siens, et tout ça pour former une sorte de grand labyrinthe, mais qui n'est pas désordonné. C'est un labyrinthe qui a une grande logique. C'est extrêmement maîtrisé. Voilà, je ne sais pas ce que pense Jean de ce que je viens de dire.
Mais je pense que je n'ai rien à ajouter et que je suis très sensible à la lecture que tu fais de ce que je tente de faire, de ce que j'ai tenté de faire depuis un certain temps. Et je dirais simplement que, bien entendu... C'est une sorte d'accompagnement. Mais d'abord, il y a une chose qu'il faut bien dire, c'est que nous sommes toujours, quand nous saisissons des choses, un paysagiste qui peint un paysage se saisit de ce paysage. Il y a toujours une prédation. Nous sommes des prédateurs. Alors, moi, ce sont les textes qui me donnent envie de faire quelque chose qui ne soit naturellement pas une activité qui relève d'une activité tautologique, qui refasse la même chose complètement inutile. Donc je ne me sens en rien... je me sens prédateur par goût, par
amour des textes.
Par amour des textes, et, comme je vous le disais tout à l'heure, pour aller trouver une énergie qui me donne envie de faire quelque chose à mon tour, qui n'est pas du tout l'illustration du texte qui est en question, par exemple, mais qui consonne en quelque sorte dans ce goût de faire quelque chose à son tour avec quelque chose.
Et vous donnez également
celui qui regarde, le goût de la lecture. Et Lydia Rambourg parlait de cette position active qu'a évidemment tout public qui regarde une peinture, mais d'autant plus pour la vôtre, puisque nous sommes amenés à lire, à recomposer, à reconstruire, à reconstruire le propos et à le revoir autrement. Vous aimez ce dialogue avec le public ? C'est quelque chose qui vous plaît ?
Oui, alors je ne sais pas. Ce n'est pas un dialogue avec le public, parce que vous avez la peinture est une chose silencieuse. On ne parle pas. Et en plus, on n'est pas là pour parler avec quelqu'un qui regarde un tableau. Et on ne sait plus ce que des tableaux, quand ils vous quittent, on ne sait plus ce qu'ils deviennent. On peut penser, si vous parliez à un écrivain, par exemple, ou un poète, que ce qu'il a écrit, par le simple fait de la lecture, est un dialogue. Mais en fait, il n'est pas le témoin de ce dialogue, puisqu'il n'est pas là, il ne l'entend pas, il ne sait pas. Alors des choses peuvent lui revenir. Alors, c'est une chose qui arrive, mais finalement assez rarement. Par exemple, un jour à la FIAC, mais ça peut arriver tout de même. Un jour à la FIAC, mais il y a longtemps, il y a 15, 16 ans, 15 ans, je ne sais plus quand c'était. C'était la galerie Herval, c'était Javal qui avait fait ça. Donc j'étais seul. Et j'avais des tableaux. Et dans un tableau, je ne sais plus quel tableau c'était. Je pense que c'est un tableau qui devait, en tout cas, qui était d'un poète de langue anglaise. Alors c'était peut-être Yeats ou T.S. Eliot. Mais je crois que c'est plutôt Yeats. Et je vois tout d'un coup quelqu'un qui, un grand monsieur que je ne connaissais absolument pas, qui était absolument par terre et qui lisait, qui avait du mal, parce que j'écris mal. Ce n'est pas du tout de la calligraphie, c'est plutôt de la cacographie. Et il essayait de lire... Alors finalement, c'était tellement lent que je me suis senti tenu d'aller lui dire, écoutez, est-ce que je vois que vous tordez comme ça beaucoup, vous peinez, est-ce que je peux vous aider ? Et je m'aperçois à ce moment-là qu'il parlait un peu le français, mais que c'était évidemment un anglophone. Et il me dit, non, écoutez, ce qui m'intéresse, non, mais je n'arrive pas très bien à lire, ce qui m'intéresse, c'est parce que ces deux vers sont de moi. Et c'était un poète américain qui s'appelait Cork, qui était de passage à Paris, et qui tout d'un coup, lisant un truc, a trouvé deux vers de lui dans ce... Alors là, c'est comme ça, une circonstance. Et dans cette même FIA, il y a eu des rencontres comme ça, parce que trois ou quatre, en tout cas plus de deux, personnes... J'avais un tableau qui avait trait à un poète que j'aime beaucoup, qui est Ségalène, qui est Victor Ségalène. Et plusieurs personnes de sa famille sont venues, et je les ai connues, que je ne connaissais pas, je les ai connus par cette... Donc là, ce sont des rencontres, mais c'est quand même assez rare. Et évidemment, les expositions suscitent parfois ces rencontres. Voilà.
Des rencontres et des énergies dont vous parliez tout à l'heure.
Voilà. Mais et en général, il y a une grande bénévolence là-bas. Ils disent, mais pourquoi est-ce que vous êtes saisi de... Non, ils sont au contraire le sentiment que c'est quelque chose qui résonne, que l'œuvre de quelqu'un qui leur est proche ou leur œuvre d'eux-mêmes est quelque chose qui fait résonner d'autres gens. Là, un peintre.
Lydia Rambourg parlait également de sensualité, de lyrisme. Est-ce que vous vous retrouvez également dans ces termes ?
Oh, le lyrisme, là, c'est un lyrisme marin. Mais Valéry est un méditerranéen, un marin, il a du sang. Enfin, un marin, un maritime. Il y a du corse, du génois en lui, de la Méditerranée en tout cas.
C'est-à-dire que vous prenez le temps pour chacun des textes que vous reprenez, d'étudier le poète.
Je ne suis pas tellement un homme d'études. J'ai un lecteur. Hein. J'ai un lecteur, je lis. Mais il se trouve qu'en général, dans beaucoup de cas, pas dans le cas de T.S. Eliot, ni de Yeats, naturellement, mais ni de Pessoa, par exemple, ni de a fortiori de Stendhal ou de Baudelaire, ou de Rimbaud, ou d'Apollinaire, je ne les ai pas connus. Mais sans ça, pour beaucoup, j'ai connu les gens qui m'ont aidé à faire des peintures. Queneau, Guivic, Tardieu, je sais pas, des Italiens comme Montale ou Ungaretti, ou des gens comme ça. Voilà.
Alors, à l'énumération de ces noms, de ces poètes que vous avez connus, Jean Cortot, moi, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est conversation. Est-ce que ça ne serait pas une conversation que vous faites avec eux, entre justement ce va-et-vient, ce sens qui circule et qui est au cœur de votre aventure picturale?
Je pourrais très bien imaginer que quelqu'un me dise « Mais pourquoi faites-vous ça? Laissez ma poésie là où elle est, lisez-la, écoutez-la, mais ne vous en saisissez pas. » Mais en fait, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ça peut arriver. Je comprendrais très bien que ça arrive. Il y a une anecdote qu'on m'a racontée un jour à propos d'Henri Michaud, qui était chez un ami très proche de lui, qui aimait beaucoup, qui avait beaucoup d'œuvres de lui. Et il est descendu un matin, et cet ami chez qui il était avait un appareil de photographie. Alors il a pris une photographie, et Michaud est devenu blême et lui a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait là ? Vous avez volé mon âme. » Il est monté dans sa chambre, il a fait sa valise, il est parti. Il n'a plus revu.
Est-ce que vous pourriez répondre à un poète qui vous reprocherait de lui voler son âme ?
Ben, je serais désolé. Je suis absolument désolé, ce serait trop tard, mais ce serait... Non, vraiment, ça me serait... Mais je comprendrais très bien. Enfin, je comprendrais, même si je trouvais que c'est une chose... C'est comme quelqu'un qui me dirait, je sais pas... Je ne sais quoi, sur une de mes peintures, je trouve ça tout à fait naturel. Enfin, j'en ai déjà arrivé, des gens qui... sur les petits livres, des expositions à travers les choses, là, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que c'est ?»« Bah, bon, rien du tout. Bah, » bon, on n'y peut rien. Non ?
Vous exprimez ce que vous avez à dire, et puis...
on le reçoit comme on veut.
Si je vous disais, par exemple, vous avez de très jolis yeux. Voilà. Alors, vous me dites merci. C'est ce qui se passe en général. Mais vous auriez pu tout d'un coup me dire, mais écoutez, passez votre chemin et taisez-vous. Vous allez m'insulter, mais en me disant, de quoi vous mêlez-vous ? Laissez-moi tranquille. Non ?
C'est-à-dire que votre peinture dérange parfois ? Vous avez l'impression ?
Tout peut déranger quelqu'un. Enfin, tout est possible. Tous les cas de figure sont possibles. Non ?
Et pourtant, moi, je trouve que votre poésie et votre peinture renvoient à quelque chose de très intime et au contraire, je trouve qu'on se l'approprie.
Je ne me sens pas quelqu'un de... Vous savez, je ne suis pas quelqu'un ni de violent, ni de... En général, je vis assez bien avec les autres.
Le médium de l'écriture qui est très familier à chacun d'entre nous. Donc vous parlez à ce qui est extrêmement...
Je parle de tout le monde parce que je trouve que ce qui me plaît préférentiellement dans l'écriture, enfin ce qui m'attire le plus dans l'écriture, c'est d'être aidé par ce qui est écrit. C'est-à-dire que l'écriture poétique ou l'écriture philosophique sont les deux choses qui me confortent, qui m'aident. Bon. Le moi est haïssable, mais il s'agit de celui des autres. Ça me paraît une vue philosophique d'une clarté et d'une... Mais ce n'est pas du tout polémique. Mais c'est tout de même très clair, en effet. Le moi est haïssable, mais on ne pense pas à son moi à soi. On pense au moi des autres, qui peut être haïssable, en effet, si tout d'un coup il vous... Bon. Et l'autre... L'autre, c'est... Ah oui, la conscience règne et ne gouverne pas. Voilà quelque chose que tout homme, par exemple, qui a une responsabilité de gouvernance, qui est dans un gouvernement, un homme politique, il devrait penser à ça. La conscience règne toujours, mais très souvent, elle ne gouverne pas. Non, on ne comprend que les choses qu'on a déjà comprises.
Merci beaucoup, Jean Cortot. Merci pour ce temps que vous nous avez consacré.
Comme on dit à la télé, merci à vous.